Ah oui, c'est vrai. Les enfants peuvent aller dans l'école de dimanche. Ouais. Bien. Nous continuons notre étude de la première épître de Paul aux Corinthiens et nous voulons nous demander aujourd'hui quelle est cette sagesse que Dieu réserve pour les chrétiens, pour les hommes et les femmes dites spirituelles. Et comment pouvons-nous grandir dans la sagesse divine? Ce qui n'est pas toujours évident, parce que les Corinthiens sont dans une situation où Paul leur dit « Je ne peux pas vous parler comme des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme des petits enfants. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. » Et ça, c'est une situation dans laquelle vous ne voulez pas être. En tant que pasteur, nous voyons différents types de chrétiens au fil des années. Effectivement, il y a des chrétiens qui ne semblent jamais grandir, qui restent immatures. Et nous voulons comprendre quel est le problème là. Et ce passage va nous indiquer comment nous pouvons grandir dans la sagesse de Dieu. Donc, nous allons lire le passage. Et nous verrons que le passage va nous parler de la nature de la sagesse divine, de la source de la sagesse divine, de l'accès à la sagesse divine, et puis une application pour nous, comment nous positionner spirituellement devant Dieu pour grandir dans cette sagesse divine. Bien, nous lisons donc à partir du verset 6. Cependant, dit Paul, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, citation de l'Ancien Testament, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit, donc l'Esprit Saint, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous avons reçu l'Esprit, non, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons, dit Paul, à ce sujet de lui et ses collègues, nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit en expliquant des réalités spirituelles, écoutez bien, réalités spirituelles à des hommes spirituel. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Personne dans le monde, c'est-à-dire. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des simples hommes? Et c'est là que nous arrêtons notre lecture. Premier point, la nature de la sagesse de Dieu. Parce que si vous allez grandir dans cette sagesse, vous devez savoir une chose importante sur sa nature. Je ne vais pas vous donner toute la nature de la sagesse de Dieu, mais le passage va nous dire une chose importante. Relisez avec moi le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Et voilà la nature. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduites à l'impuissance. Je vais aller plus loin dans la nature de la sagesse, mais un premier point, c'est qu'elle n'est pas comme la sagesse de ce siècle, de ce monde. Vous avez vu qu'il dit que nous prêchons la sagesse, parce qu'il avait dit dans l'épître que nous prêchons un évangile qui était une folie pour les non-chrétiens. Et nous pouvions nous dire, mais est-ce que tout dans la foi chrétienne est une sorte de folie? Et il dit, non, il y a une sagesse chrétienne aussi, que nous prêchons parmi les parfaits. Alors les parfaits, le mot signifie tout simplement les mûrs, ceux qui sont matures. C'est la même personne que dans le chapitre 3 et le verset 1. Ce n'est pas comme à des âmes spirituelles que j'ai pu vous parler. Maintenant, les parfaits, les mûrs, les spirituels, c'est simplement le chrétien qui va bien. Ce n'est pas une élite. C'est celui qui fonctionne comme un vrai chrétien. OK? Et qui avance dans sa foi. Mais Paul dit dans ce verset 6, « Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes, des grands, des érudits de ce siècle, qui vont être réduits à la puissance. » Il y a une sagesse du monde. Nous pouvons la trouver partout. On vous donne 1000 manières de vivre, et les gens pensent qu'ils ont un discernement, qu'ils ont découvert des choses tellement profondes, et ils vont vous raconter ça, tout le temps, et partout, et dans tous les domaines. Et c'est vrai que par rapport à la science, tout, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tout est faux. Mais quand il s'agit des choses ultimes de Dieu, d'arriver à connaître Dieu, de l'absolu, de la vérité absolue, qui nous sommes, comment arriver à ce Dieu, qu'est-ce que je dois être? Alors la sagesse du monde n'a rien à dire. Nous sommes dans une sagesse qui est complètement différente. Il dit, la sagesse que nous prêchons n'est pas la sagesse de ce siècle, c'est autre chose, c'est complètement différent. De sorte que les non-chrétiens n'arrivent pas à nous comprendre quand nous sommes dans cette sagesse. Et il dit que cette sagesse du monde est une sagesse des princes de siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi est-ce qu'il mentionne cela? Simplement parce qu'il faut que nous sachions que le compte à rebours a sonné quand Christ est venu. Et maintenant, dès sa venue et sa crucifixion, sa résurrection, nous entrons dans la phase finale de l'âge où cet âge a été jugé et condamné. Elle est périmée. Elle a dépassé sa date. Elle va passer. Elle va être réduite au néant. Et voilà le destin de toute la sagesse du monde concernant les choses ultimes. Deuxième chose que nous pouvons dire au sujet de la nature de la sagesse, c'est que c'est une sagesse qui est cachée, qui a été cachée du monde entier, tout le monde, de tout le monde, jusqu'à ce que le Christ ne viennent. Le juif avait des idées vagues, mais c'était vraiment caché. Regardez le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, intentionnellement par Dieu. Cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Il faut que vous sachiez que le mot mystère dans la Bible ne signifie pas quelque chose qui est mystérieux dans le sens où nous avons l'habitude de penser. Un mystère est quelque chose qui a été caché, n'a pas été dit, personne ne peut le savoir, et puis à un moment donné, il est révélé, et quand il est révélé, il n'est pas mystérieux. On le voit maintenant. C'est juste quelque chose qui était secret. Donc, dans certaines versions, vous avez la traduction « secret et caché » plutôt que « mystérieuse et cachée ». Et donc, la sagesse que vous avez en tant que chrétien n'aurait pas pu être connue avant la venue du Christ. Impossible. Parce que Dieu lui-même a caché cette sagesse. D'accord ? Je parle dans sa plénitude. Les gens avant Christ, qui ont cru dans le Christ qui devait venir, ils pouvaient savoir assez pour être sauvés. Mais Paul parle de cette sagesse pour les murs. La sagesse qui nous amène plus loin que David ou Abraham dans notre communion avec le Dieu qui nous regarde ce matin. Ok ? C'est une sagesse qui dit qu'il a été prédestiné avant tous les siècles à notre gloire. Pas la gloire des grands de ce monde, des princes de ce monde, mais à votre gloire. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Ce dont vous êtes récipient, que Dieu l'a prédestiné avant tous les siècles, à votre gloire. La troisième chose que nous pouvons dire au sujet de cette sagesse, c'est pas comme celle du monde. Elle a été cachée jusqu'au temps de Christ, et puis révélée. Et la troisième chose que nous savons sur sa nature, c'est que cette sagesse, je l'ai dit un peu, mais je veux appuyer, c'est une sagesse que les autorités, les grands de ce monde, ne peuvent pas connaître et n'auraient pas pu connaître. Nous lisons dans le verset 8 et suivant, « Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu. » Aucun. C'est vraiment... c'est une hyperbole. Il y a eu quelques... Nicodème était le théologien d'Israël, il est venu à la foi. Mais, grosso modo, aucun des princes de ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout cela Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. La preuve, chers amis, que le monde n'a pas pigé, c'est que les grands de ce monde, les chefs religieux d'Israël eux-mêmes, ont crucifié le Seigneur de gloire. Ils le jugent digne de la plus grande honte qui puisse être la crucifixion. Alors qu'il est le Seigneur de gloire. Tout honneur et gloire, tout ce qui est grand et grandeur, c'est lui qui est la source de cela. Il est celui qui est. Toutes choses viennent de lui et toutes choses sont faites pour lui. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il vient sur terre et des hommes le jugent digne de la plus grande honte et ignominie qui est possible. Et c'est ça la preuve que le monde n'a rien compris du Christ. À part les élus que Dieu, dont Dieu a ouvert les yeux. Et vous pouvez vous demander pourquoi il cite ce passage de l'Ancien Testament, ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout cela Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Maintenant, quand je dis l'œil, l'oreille, le cœur, je viens de vous indiquer toutes les capacités humaines pour arriver nous-mêmes sans Dieu à savoir quelque chose. Les capacités d'investigation, n'est-ce pas, d'entendre, de réfléchir, de spéculer, de raisonner dans le cœur. Et tout ce que l'homme, avec toutes ses capacités, oreilles, les yeux, le cœur, n'a pas pu savoir, alors tout cela, Dieu l'a révélé à nous. Et ce n'est pas venu de nos investigations. Ce n'est pas parce que vous êtes malin que vous le savez. C'est parce que Dieu vous a fait don. Parce qu'il s'est intéressé à vous. Donc ça, c'est la nature de la sagesse divine dont vous êtes bénéficiaire. Pas comme cette sagesse du monde du tout. Une sagesse qui a été cachée jusqu'au moment de Christ. Et une sagesse que même les plus érudits, les plus brillants de ce monde n'ont pas compris du tout. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous met un peu à notre place parce que nous nous disons, si nous, nous connaissons cette sagesse, alors ça doit être une action de Dieu lui-même. Deuxièmement, la source de la sagesse. La première chose que nous devons dire, c'est que ce n'est que l'Esprit Saint qui peut savoir et révéler la sagesse de Dieu aux hommes. Lisez avec moi dans le verset 10. À nous, Dieu l'a révélé, donc nous ne parlons plus de la nature de la sagesse de Dieu, mais de sa source. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Ne pensez pas que l'apôtre est en train de parler de vous. Le « nous » n'est pas tous les chrétiens. Le « nous », Paul parle de lui-même, la bande apostolique. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, je le sais, parce qu'il continue dans le verset 13. Lisez le verset 13 avec moi. Et il dit: et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant des réalités spirituelles à des hommes spirituels. Donc il parle de lui-même et de sa tâche avec Timothée, Tite et d'autres. Et donc il parle de cette révélation que Dieu a donnée à ses serviteurs. Maintenant, il dit, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, donc on est en train de parler de la source objective de la sagesse de Dieu. Dieu va amener dans ce monde cette sagesse et elle va être là. D'accord? Et Dieu l'a révélé, a révélé l'Évangile, a révélé toutes les implications de l'Évangile aux apôtres et à ses serviteurs. Et il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse être la source de cela. Il dit que parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Alors ça, c'est quoi? On ne peut pas l'expliquer, les profondeurs de Dieu. Mais en tout cas, si j'essaie de vous expliquer un peu, vous allez perdre pied, parce que nous sommes dans les profondeurs. Je vais juste tenter. Écoutez juste un ou deux passages, rapidement. Aux profondeurs, voilà les profondeurs, de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier pour qu'il accepte, pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est à lui, par lui et pour lui. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que c'est dans un contexte où il avait dit ceci. Écoutez bien les profondeurs de Dieu. Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient pas fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. À leur naissance, ils n'avaient fait ni bien ni mal, et Dieu a déjà un choix. Que dirons-nous? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ne sommes-nous pas dans les profondeurs de Dieu? Est-ce que vous n'êtes pas rebroussé un peu? Est-ce que ça ne vous déchire pas un peu? Dieu est autre chose. Il n'est pas quelqu'un qui est à notre service. Il fait comme il veut avec les hommes coupables et pécheurs. Il y a des profondeurs en Dieu. Pourquoi fait-il ainsi? Vous ne saurez pas. Nous pourrions dire aussi que quand Jésus prie à la fin de sa vie, et il dit ceci, nous sommes aussi dans une profondeur de Dieu. Dites-moi si vous ne perdez pas pied. Et moi, dit Jésus, il parle au Père cette dernière nuit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un dans la Trinité. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je dis, est-ce possible? Est-ce imaginable? Les profondeurs de Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. Il n'est jamais arrivé à un cœur d'homme de spéculer cela. Le deuxième aspect de la source de sagesse, c'est que, oui, c'est un peu, j'enchaîne un peu. J'ai dit que l'Esprit Saint est la seule source de la révélation objective. Et la raison, nous le trouvons dans le verset 11. « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Vous n'allez pas aller prendre Dieu par force et ouvrir son cœur et trouver ce qui est dedans. C'est impossible. Maintenant, vous êtes une personne humaine. Vous avez, vous, certains complexes, certains fardeaux, certaines choses très, très, très profondes en vous-même. Alors, qui peut savoir ces choses? Paul dit, qui peut, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et il n'y a que moi qui puisse être conscient de ces choses tellement profondes de moi-même. C'est inaccessible aux autres. De même, personne ne peut accéder à ce qui est très profond en Dieu, sauf l'Esprit de Dieu qui est en lui. Donc, nous avons parlé maintenant de la source de la sagesse. Pourquoi c'est important? Parce que cela aussi, ça nous montre à quel point nous sommes des petits-enfants, n'est-ce pas? Nous sommes complètement dépendant de l'Esprit de Dieu pour nous donner la vérité. Autrement, c'est impossible. Troisièmement, la source, la nature, maintenant l'accès. L'accès à la sagesse de Dieu. Si l'Esprit nous donne objectivement la révélation de l'Évangile, ça ne suffit pas. Vous pouvez allez faire lire le Nouveau Testament à vos collègues, et ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la sagesse de Dieu. Il faut une révélation objective, qui ne vient que de l'Esprit, qui nous donne la Bible, mais il faut une illumination subjective. C'est-à-dire, voilà ce qu'il faut savoir, mais je suis aveugle, ouvre-moi les yeux pour que je puisse la voir. D'accord? Et maintenant, c'est l'accès à la sagesse de Dieu, c'est aussi par l'Esprit de Dieu, mais cette fois, non pas en nous donnant la Bible, mais en nous ouvrant le cœur et les yeux pour comprendre cette sagesse. Nous lisons dans le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir, voilà notre accès, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que vous avez aussi besoin de l'Esprit Saint pour vous rendre réceptif à l'Évangile. Il nous a donné l'Esprit afin de savoir. Et nous devons aussi dire une autre chose, les amis. La connaissance de la sagesse chrétienne, la sagesse profonde chrétienne, n'est pas une affaire détachée, impersonnelle, où vous pouvez dire, donnez-moi les informations. Je suis né de nouveau maintenant, donnez-moi juste les informations, un bon cours de théologie, et je serai très profond spirituellement. Je vous assure que certaines des personnes qui ont plus lu la théologie sont le moins profond dans la vraie sagesse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une affaire simplement de toi et une chose qui s'appelle la sagesse. C'est une affaire de toi et une personne qui est Dieu l'Esprit. Ta relation avec lui va déterminer si devant cette Bible, tu vois les choses profondes qui sont là ou tu glisses dessus. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? À toi et à moi de chercher une relation avec Dieu l'Esprit pour ne pas le contrister, qui nous met dans une situation où lui, il nous ouvre la pensée et le cœur pour comprendre les profondeurs de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. C'est quoi l'Esprit du monde? L'Esprit du monde, c'est l'esprit de la confiance dans la chair. Nous pouvons savoir, c'est l'esprit d'exalter les hommes et de penser que nous sommes brillants, nous allons trouver. L'esprit que nous avons reçu nous rend comme un enfant complètement dépendant. Je ne vais pas trouver. Complètement différent. La deuxième chose que je voudrais dire au sujet de cet accès, c'est que, ok, l'esprit travaille en toi pour te rendre réceptif et capable de comprendre, mais il faut aussi qu'il agisse dans les enseignants de l'Église. Regardez le verset 13. Je vais relire le 12. « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce, et nous en parlons, nous les enseignants de l'Église, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. » Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont une sorte de relation avec Dieu et avec le Saint-Esprit qui est un peu la ligne directe au ciel. Ils pensent que moi et l'Esprit Saint, c'est ce qu'il faut. Mais ce n'est pas comme ça que Paul parle. Il dit, vous avez besoin de recevoir l'Esprit pour savoir les choses que Dieu vous donne, mais vous avez besoin aussi que le Seigneur vous donne des enseignants dans l'Église qui en parlent et expliquent. C'est ça le mot dans le texte, non? Verset 13. Qui explique les réalités spirituelles à des hommes spirituels. D'accord? Et donc, cela veut dire que le Seigneur, la sagesse humaine, n'est pas un truc où je peux m'enorgueillir. C'est moi et le Saint-Esprit. Je suis un homme spirituel, ligne directe. C'est un truc complètement dépendant qui se passe que en communauté. Vous ne pouvez grandir spirituellement que dans une interdépendance dans la communauté chrétienne et les dons que Dieu donne aux autres. Vous êtes complètement dépendant de leurs dons. Comme moi, je le suis. C'est formidable, n'est-ce pas? Donc, dans la source, dans la nature et dans l'accès, nous sommes remis chaque fois à notre place, la bonne place d'un enfant complètement dépendant de Dieu. Vous voyez ce que Paul est en train d'appuyer chaque fois? Et nous pouvons dire que il y a un petit test donc vis-à-vis de cet accès à la sagesse de Dieu qui montre si quelqu'un est vraiment chrétien ou pas. Et nous allons lire ce test dans le verset 14 et 15. L'âme naturelle ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si je veux trouver un homme naturel, je lui parle de la sagesse de l'Évangile, et quand il ne piche rien, je vois, ok, il n'est pas né de nouveau. Ok, je peux prier pour lui, pour sa conversion. N'est-ce pas? L'âme spirituelle, verset 15, au contraire, juge de tout. De tout, c'est les choses spirituelles de l'Évangile. Juge de tout dans le domaine de la vérité spirituelle. Et il n'est lui-même jugé, cerné, compris par personne dans le monde. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous avons la pensée de Christ. Je reviens au verset 14 parce que je voudrais vous parler du fait que les gens sans l'esprit sont incapables de comprendre l'Évangile. Ok ? Qui est là dans le verset 14? Qui est là? Vous pouvez me dire. Ok. Est-ce que tout le monde est l'âme naturelle? Tous les inconvertis. Ok. Tous les inconvertis. L'âme naturelle, c'est psychikos anthropos. En grec, ça veut dire anthropos, c'est l'homme. Psychikos, ça parle de l'âme. L'âme humaine. Il veut dire, l'âme naturelle, c'est l'homme né dans le péché qui n'a que l'âme humaine maintenant pour fonctionner. Il n'a pas l'esprit, il n'a plus l'esprit de Dieu. Il ne fonctionne qu'avec sa propre âme. Et cette âme naturelle qui est sans l'esprit de Dieu, regardez, comment est-ce qu'il va réagir si tu lui présentes l'Évangile? Regardez, l'âme naturelle ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Jamais. Aucun homme naturel à qui vous parlez ne va jamais accepter l'Évangile. C'est une affirmation. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une folie pour lui. Et il ne peut les comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et il n'a pas d'esprit. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aucun homme naturel ou femme naturelle ne s'est jamais converti à Jésus-Christ. Voilà. Vous allez dire, comment est-ce que moi, je me suis converti? Parce que j'étais un homme naturel. Oui, mais pour que vous croyiez, compreniez et tourniez à Jésus-Christ, Dieu vous a régénéré et au moment de cette nouvelle naissance, vous n'étiez plus l'homme naturel. Et puisque vous êtes maintenant spirituel, tout de suite vous avez vu, vous avez cru et vous vous êtes repenti. Dans beaucoup d'églises évangéliques, on vous enseigne que vous devez croire et vous repentir, vous convertir. Et dès que vous vous convertissez, vous recevez la nouvelle naissance. C'est complètement faux, selon ce verset. L'homme naturel ne peut justement pas se convertir. C'est impossible. Il faut que vous ayez la nouvelle naissance pour vous convertir. C'est pour cela que Jésus dit à Nicodème, « Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. » D'accord ? Donc cela nous met à notre place encore parce que cette nouvelle naissance est un acte souverain de Dieu. Tu ne peux pas l'influencer. Le vent souffle où il veut. Dieu fait naître de nouveau qui il veut. Nous sommes à notre place. Le salut est vraiment une grâce. Gloire à Dieu qui nous a visités. Il aurait pu ne pas. L'homme spirituel,
guidé par l'Esprit de Dieu,
vous pouvez saisir les choses de la sagesse de Dieu, même les plus profondes dans la Bible. Nous relisons
dans le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout.
Quelle différence Dieu vous a fait dans votre vie, n'est-ce pas? Vous étiez l'homme naturel qui ne pouvait rien comprendre. Vous êtes l'homme spirituel maintenant. Vous jugez de tout dans le domaine spirituel. Mais vous n'êtes jugé par personne, c'est-à-dire par personne parmi les hommes naturels. C'est-à-dire les non-chrétiens n'arrivent pas à vous cerner. Ils n'arrivent tout simplement pas à comprendre cette perspective évangélique des croyants, des vrais croyants. Je ne parle pas des choses loufoques de certains évangéliques, je parle de la vraie sagesse de l'évangile. Le non-chrétien n'arrive pas à vous comprendre. Et pourquoi? C'est expliqué dans le verset 16, regardez bien. Pourquoi les non-chrétiens ne vous comprennent pas?
Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire?
Alors, répondez-moi à cette question d'abord. Qui a connu la pensée du Seigneur? Personne. Lisez le reste du verset. Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas nous comprendre, parce que personne ne peut comprendre la pensée du Seigneur, et c'est celle que nous avons maintenant. Nous pensons en ligne avec le Seigneur, et par lui et en lui. Ok, je tire vers la fin. Dernier point, cette application de la sagesse de Dieu, la clé pour que vous puissiez, avec le Seigneur, être dans la bonne disposition pour grandir dans la sagesse de Dieu. Maintenant, premier point. Certains chrétiens, on est obligé de leur parler comme à des petits bébés, parce qu'ils ne sont pas en train de grandir dans la sagesse biblique. Lisez le verset 1 du chapitre 3 avec moi.
Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des âmes spirituelles que j'ai pu vous parler, mais comme à des âmes charnelles, comme à des petits enfants en Christ. L'âme spirituelle, l'âme charnelle, c'est qui tout cela?
Il y a des gens qui ont enseigné pendant longtemps dans les églises évangéliques qu'il y a trois sortes de personnes dans le monde. L'âme naturelle, c'est le non-chrétien. L'âme spirituelle, c'est le chrétien qui marche proche de Dieu. Et l'âme charnelle, c'est un chrétien né nouveau, mais qui ne marche pas avec Dieu. Alors, c'est complètement faux. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Il ne dit pas que vous êtes charnel. Il dit, ce n'est pas comme à des âmes spirituelles que j'ai pu vous parler, mais comme à des âmes charnelles. Un âme charnel, c'est un non-chrétien. Le mot qui est utilisé ici, tiré du mot sarx, la chair, ça veut dire toujours quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. D'accord? J'ai dû vous parler comme si vous étiez des non-chrétiens, ou bien, si vous voulez, à des petits-enfants en Christ. Voilà ce que Paul est en train de dire. Il utilise le mot sarkikoi, sarkinoi, et les deux mots sont pour Paul une manière de parler de la personne qui est dans la chair, qui n'a pas l'esprit. D'accord? Donc, il n'existe aucun chrétien charnel dans le sens de quelqu'un qui naît de nouveau mais qui ne vit pas pour le Seigneur et qui va mourir comme ça. Ok? Je vous le prouve. Écoutez ceci. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher comme style de vie habituel. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants de diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un chrétien charnel. C'est un non-chrétien. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Deuxièmement, je reprends le même langage de Sarx, de Sarkikos, Sarkinos, de Paul, quand je cite ce passage, Romains 8. Si vous vivez selon la chair, le sarx, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, de manière à faire mourir la chair, son fils de Dieu. Et quelqu'un qui ne fait pas mourir les actions de la chair n'est pas fils de Dieu. Ok, ça c'est une parenthèse. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des chrétiens qui, au moins pour un temps, agissent comme des non-chrétiens dans leur manière de fonctionner dans leur tête, ou comme des tout petits bébés en Christ, et on n'arrive pas à leur parler de certaines doctrines difficiles. Essayez de parler de la prédestination à beaucoup de chrétiens. Que font-ils? Ils ferment tout de suite la porte. Ferment tout de suite la porte. Or, la prédestination est une gloire de Dieu. Il est le Dieu qui sauve, qu'il veut. Ça le rend tellement glorieux. Ça rend mon salut tellement formidable. Il aurait pu ne pas me sauver. C'était son choix. Il m'a voulu à moi. Dans son amour souverain. Mais non, ils ne veulent rien entendre de cela. Et il y a bien d'autres doctrines qu'ils ne veulent pas entendre. Ils sont incapables. C'est de la viande par rapport à un bébé qui est au lait. On ne peut pas lui donner ça. Parce qu'il va refuser, il va s'étouffer sur ça. Et donc, on veut demander pourquoi. Et nous lisons les derniers deux versets, 3 et 4 dans le chapitre 3. Il explique pourquoi, ce blocage. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas de simples hommes? Alors, tout simplement, il est en train de dire, vous avez la révélation objective par l'Esprit Saint, vous avez la possibilité de l'illumination par l'Esprit Saint qui vous habite, mais vous ne progressez pas. Et la raison, c'est une mentalité. Cette mentalité se résume dans le fait de vous appuyer beaucoup trop sur l'âme, sur la chair. Moi, je suis d'Apollos, moi de Paul, et d'exalter les âmes. Et vous ne faites pas cette différence infinie entre Dieu, de qui, par qui vient toute la sagesse divine, et de simples pauvres pécheurs comme nous. Et donc, tant que vous êtes quelqu'un qui exalte les serviteurs de Dieu, par exemple, vous n'allez pas grandir beaucoup. Je pense à une personne qui a déménagé de la France, qui, pour aller, j'en connais plusieurs cas, mais pour aller dans un autre pays carrément, parce qu'il y avait un serviteur de Dieu dans cet autre pays qui était bien connu, et la personne pensait que ça, c'est la clé de ma croissance spirituelle, c'est d'être auprès de cette personne. Ma fille a un couple dans son église à Cardiff qui est dans ce cas. Ils ont déménagé d'un pays d'Europe d'Est pour venir à cause du pasteur. Et maintenant, ils sont déçus. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Vous voyez, mais ces personnes sont extrêmement immatures, n'arrivent jamais à grandir. Je pense à une autre personne qui a quitté la France, qui est allée dans un autre pays parce qu'elle écoutait un prédicateur sur l'internet et ce prédicateur était tout. Et maintenant, ça n'a pas été ce qu'elle rêvait. Vous voyez? Et le problème, c'est que ces personnes vont de homme en homme. Et ils ne grandissent jamais. Parce que la source de la sagesse est Dieu. Et l'accès de la sagesse est par l'Esprit. Et la disponibilité, la confiance comme un enfant tellement dépendant de Dieu. Ça, c'est la clé pour grandir. Ça, c'est toute la clé. Je vous demande, quand vous venez ici pour entendre la prédication, combien est-ce que vous avez prié avant à Dieu de donner son esprit? Ça vous montre à quel point vous êtes dépendant de Dieu ou dépendant de l'homme, le prédicateur. Vous voyez? Nous pouvons tous grandir dans notre dépendance par rapport à Dieu et aller vers lui et dire, si ce n'est pas toi qui agis aujourd'hui, je n'aurai rien dans le tréfonds de ma vie et de mon cœur. Donc tout l'enseignement de Paul, c'est pour nous amener au texte que Callaghan a lu tout à l'heure dans le culte, que Père, dit Jésus, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux grands et tu les as révélées aux petits-enfants. C'est pour que nous soyons devant Dieu comme de petits-enfants, sachant que lui et lui seul est la source de tout bien. À lui la gloire. Thank you.